Je suis chez Carole Bouldès à Paris. Et Carole, je voudrais te demander une chose. Est-ce que tu peux te présenter brièvement?
Mon nom, c'est Carole Bouldès. Je peux dire que je suis avant tout historienne de l'art, mais critique d'art également, et que j'ai mené longuement une recherche sur le mouvement Dada, et plus spécialement Francis Picabia. Voilà, je pourrais dire ça pour commencer. Ensuite, peut-être expliquer l'intérêt pour les femmes ultérieurement, puisque c'est vrai que j'ai plutôt consacré mes recherches et mes études un homme, Francis Picabia, et au bout d'un moment, quand même, je me suis dit, mais où sont les femmes dans cette affaire? Et donc, c'est vrai que dans mes différents comptes rendus d'exposition pour la revue Art Press, j'ai essayé de parler plus de femmes que d'hommes, donc en acceptant ou en demandant des papiers sur ce sujet, notamment. Et puis, bon, est venue cette idée du colloque donc, que j'organise sur femmes, attitudes performatives, qui naît de mon intérêt pour la danse, notamment la danse moderne, les reprises aussi de spectacles des ballets russes ou ballets suédois. Le programme est assez étoffé. Voilà, il faudrait en expliquer le détail.
Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclencheur en fait de cette prise de conscience, de ce besoin de faire place aux femmes dans l'histoire de l'art ou bien simplement dans ta réception du monde de l'art?
Bon, je pense que c'est une question compliquée parce qu'il y a des prises de conscience qui se font comme ça, sans que ça mène forcément à une prise de décision. Et puis là, ce qui a un peu mobilisé mon énergie, c'est en fait la publication de bouquins. Hein, c'est le livre de Marie-Jo Bonnet sur les femmes dans l'histoire de l'art. Et puis celui après, qui est venu un an ou 2 ans après, d'Elisabeth Lebovici sur les artistes en France. Donc c'est parti de là, en fait. Là, ça m'a amené à changer mes cours aussi. Hein. Les cours d'histoire de l'art que je donne ont été beaucoup plus axés à partir de ce moment-là sur les femmes dans l'art. Enfin, sans pour autant exclure les hommes de ce champ, ce qui serait un peu absurde. Mais en effet, j'ai un peu plus axé ma réflexion à partir de cette lecture-là, de ces lectures-là.
Et ça, de quand précisément?
4-5 ans, à peu près. C'est assez relativement récent. Oui, relativement récent. C'est vrai que dans le cadre de mes études d'histoire de l'art, que j'ai effectuées à Paris 1, à la Sorbonne, c'était pas des sujets abordés. Hein. L'art des femmes n'était pas du tout abordé, pas même dans l'avant-garde, où pourtant on a des figures majeures comme Sonia Delaunay ou Sophie Teuber-Harpe. C'était pas on voyait leur mari, on parlait des maris hein, de ces deux artistes, mais pas d'elles. Donc c'est vrai que déjà, trouver de la documentation n'est pas si facile. Hein. Voilà. Puis après, dans mon intérêt pour le mouvement Dada, je me suis penchée aussi sur le travail d'Anna Hoesch, mais ça, bon, il y a longtemps, en revanche. Et j'ai été arrêtée par le fait que tout ce qui concernait Anna Hoesch était en allemand et que je ne maîtrise pas cette langue. Et qu'il n'y avait rien en français à ce moment-là. Hein. C'était dans les années 80, 86, 87. Voilà. Donc, en fait, cet intérêt est malgré tout assez ancien, mais je n'avais pas les moyens de développer vraiment cette recherche. Et c'est vrai que la publication des livres dont j'ai parlé apporte un poids et ça amène des ouvertures qui permettent ensuite d'aller plus loin pour chacun des historiens. Voilà.
Est-ce que l'Internet a été un facteur de d'ouverture par rapport à ces recherches?
Bah, en fait, moi, je suis un peu à la vieille école. Enfin, je ne veux pas dire par là que je ne me sers pas d'Internet. Au contraire, hein, j'ai un blog. Et bon, c'est pas ça la question. Mais disons que les recherches que je fais sont assez pointues. Par exemple, si je regarde ce qui est écrit sur Francis Picabia, pour qui est mon sujet de spécialité, c'est plutôt les erreurs que je vais voir sur Internet que des filons que je pourrais suivre. Donc tout dépend de l'usage qu'on a d'Internet. Si c'est pour ouvrir un champ qu'on ne connaît pas, ça peut être très utile. Mais si on est déjà spécialiste d'un domaine, personnellement, moi, ça ne me sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, je distingue les usages, hein, sans pour autant rejeter cet outil formidable. C'est vrai que j'avais contribué il y a quelques années au numéro spécial de synesthésie sur les femmes, qui aussi, j'ai oublié de le dire, hein, avant la publication du livre de Marie-Jo Bonnet, m'avait intéressée à ces questions. Donc là, il y avait déjà, effectivement, sur Internet, et par le biais de la revue d'Anne-Marie Maurice, quelques pistes sur l'art des femmes. Oui.
Comment ces artistes, comment tu les as connus, par quel, est-ce que c'est des expositions, est-ce que c'est des films, est-ce que c'est des représentations?
Ça peut être quand même assez fréquemment par le livre, j'ai dit, mais aussi par les expositions, notamment parce que je m'intéresse à la figure de l'artiste allemande Valeska Gerth et aussi à Lavinia Schultz, qui est un peu moins connue qu'elle. Et c'est par le biais d'une exposition que j'ai vue en Allemagne avec mes étudiants sur l'expressionnisme que j'ai en fait vu des images, des photographies. Et ça a été le point de départ, en fait, ça a été l'un des points de départ de mon enquête sur les attitudes performatives des femmes. C'est ce que j'ai vu dans l'expo sur l'expressionnisme allemand.
Donc là, on arrive sur cette notion de performativité. Oui. Et tu organises un colloque les 20 et 21 novembre au Centre André Malraux à Vendeuvre-les-Nancy, intitulé « Femmes, attitudes performatives aux lisières de la performance et de la danse ». Comment vont se dérouler ces journées?
J'espère bien. J'espère qu'elles vont bien se dérouler, parce que là, on est vraiment encore dans une période d'anticipation, puisque c'est quand même seulement dans un mois et demi. Ce que j'ai prévu, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, c'est de ne pas avoir ensemble uniquement des spécialistes. Je voulais vraiment ouvrir, en pensant surtout aussi à mes étudiants. Parce que vous savez, ce qui se multiplie beaucoup c'est en ce moment, hein, c'est des colloques qui sont pour des spécialistes qui, en fait, se parlent entre eux. Et c'est à peine si les étudiants sont conviés. Hein. Mon idée première, c'était ça, hein, c'est de faire des rencontres ou un colloque, bon, le sujet, le mot est sérieux, mais qui serait à la portée de mes étudiants et qui pourrait les intéresser et les stimuler dans leur propre travail. Donc ça, c'est le point de départ. Donc venons de là. J'ai pensé inviter des historiens, des philosophes, de la danse, ayant eu un moment un intérêt pour ce sujet, et des chorégraphes, des danseurs. Avec cette idée, peut-être un peu folle, je ne sais pas si ça va être réalisable, mais que ça pourrait se mélanger et qu'on pourrait avoir, pourquoi pas aussi, des performances au moment même où on en parle. Donc ça serait vraiment performatif à ce moment-là. Donc je travaille sur cette question-là, ce qui n'est pas simple du tout à mettre en œuvre. Mais dans l'idéal, c'est ce que j'aurais voulu. Voilà.
Donc si je résume, c'est un lien entre théorie et acte artistique.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est un sujet qui me préoccupe d'ailleurs, puisque dans les écoles d'art, la recherche est vraiment maintenant une dominante. Enfin, on nous impose, j'allais dire. On nous impose de travailler sur des problèmes liés donc à une vision universitaire des choses, plutôt. Et donc, c'est assez compliqué de trouver le moyen de rebondir pour que les étudiants ne soient pas face à un discours très spécialisé et qu'ils soient motivés. C'est-à-dire, j'ai pas envie qu'ils viennent et qu'ils s'ennuient. Je dis pas qu'on s'ennuie forcément dans les colloques, mais c'est quand on n'est pas du milieu universitaire, c'est quand même difficile de rester une journée entière assis sur un banc ou dans un amphithéâtre et écouter des gens parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure de sujets dont ils sont spécialistes, dont c'est très pointu. Comment faire que les créateurs, les artistes que nous préparons soient aussi intéressés par les colloques qu'on nous demande de monter.
Alors, est-ce qu'on peut parler des artistes femmes dont il va être question pendant ces deux jours?
Alors, En fait, il y a trois volets. J'ai prévu trois volets. Le premier est un volet très, très historique, enfin, lié vraiment à la naissance de la danse. Avec, il y aura évidemment les danses dadaïstes qui seront mises en avant. Donc, il sera question de Sophie Tauberharp, dont j'ai déjà parlé. Valeska Gert aussi, qui a eu quelques liens. Marie Wigman hein, aussi. Voilà, ce sont les artistes, les femmes qui seront citées. Et puis après, toujours dans ce créneau, on parlera de la danse expressionniste avec une chercheuse berlinoise, j'espère qu'elle sera là, et une spécialiste de la sculpture viendra nous parler de Lizica Codreanu, qui est une danseuse roumaine. Donc ça, ce sont des sujets qui ne sont pas tellement traités. Hein, donc c'est effectivement de la recherche. Hein, c'est vraiment les personnes que j'ai conviées vont nous donner le résultat de recherches récentes. Hein. Voilà, c'est pas des choses qu'elles ont déjà explorées ou des conférences qu'elles ont déjà données. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet va s'attacher plus aux années 1950-60. Alors, on va aussi se déplacer vers l'Allemagne, vers pardon, les États-Unis. Et donc là, on aura Anna Halprin qui sera le centre d'une des conférences. On aura également, si tout va bien, du côté de la performance, une intervention sur Rebecca Horn et Anna Mendieta. Et puis, dans la même séance, ce qui m'intéressait beaucoup, d'avoir une chorégraphe, mais qui enseigne en école d'art. Donc, normalement, dans cette même séance, on aura une personne qui viendra nous parler des mutations des genres par rapport à sa propre pratique aussi. Hein. Donc, ça m'intéressait bien. Puis, enfin, le troisième volet aura lieu le lendemain. C'est un volet qui parlera des remakes, hein, de ce qu'on appelle le reenactment, donc le fait de reprendre des spectacles anciens ou des performances des années 70 ou 80 et de les rejouer. Donc là, on aura aussi trois interventions, c'est à chaque fois trois conférenciers, enfin conférencières, parce qu'à vrai dire, j'ai surtout des conférencières, c'est pas que je voulais absolument faire comme ça, mais bon, ça se trouve ainsi. L'une d'entre elles parlera des performances en Californie du Sud. Alors, je n'en sais pas beaucoup plus pour le moment, hein, c'est mystérieux. Une autre parlera d'un spectacle de Juren et d'Orsen. Et puis, on aura une mise en place, enfin, une réflexion sur les enjeux hein, féministes des remakes par une troisième conférencière. Je donne pas de nom, je préfère pas parce que j'ai un peu peur qu'au dernier moment il y ait des désistements ou quoi. Donc voilà, je laisse la surprise un peu.
Les frontières glissent avec la lecture qu'en font les historiennes féministes dont tu fais partie. Peux-tu parler de ce glissement en fait?
Le glissement d'une...
Le glissement des champs artistiques, ouais. Le télescopage en fait, des pratiques les unes dans les autres, et mmh. Qu'est-ce que ça induit comme relation à la transformation du corps et du champ artistique?
Ça, c'est un sujet qui va être traité par l'une des intervenantes, hein, qui est spécialiste, Marcella Lista, qui est spécialiste de l'art dit total, hein, donc de... l'union, la fusion des arts entre eux. Donc, ce n'est pas un sujet qui est vraiment lié au XXe siècle. En fait, on pourrait en tracer l'historique dès le XIXe siècle, avec notamment les opéras wagnériens, même si ce n'est pas tout à fait de la danse. Il y a quand même cette idée de synthèse, hein, de réunion des différents arts entre eux. Oui, je pense qu'on devrait déjà démarrer au XIXe siècle pour tracer un fil d'Ariane. Et puis ensuite, s'intéresser effectivement à la façon qu'ont eu les avant-gardes de s'opposer finalement à ce schéma wagnérien pour proposer autre chose, notamment Kandinsky, notamment le travail de Picabia aussi, hein, ou celui de Blaise Cendrars et Fernand Léger. Bon, ce sont des exemples d'union des arts, hein, où effectivement on transgresse, on passe d'un champ à l'autre, mais on le fait dans une optique bien différente du romantisme passé. Voilà. Il y a beaucoup de provocations, beaucoup de volonté de remuer le spectateur, de l'amener à réagir. Hein. Et ça, c'est intéressant parce que ça anticipe sur les attitudes des années 50-60 où, effectivement, la participation du public était quelque chose d'essentiel. On voulait absolument remuer le spectateur, le faire sortir de ses gonds, le réveiller. Et c'est des choses qu'on peut observer déjà, par exemple, dans la création du monde de Fernand Léger ou bien encore dans le ballet Relâche de Francis Picabia. C'est déjà fortement l'enjeu.
Est-ce qu'on peut revenir à cette notion de performativité qui est très en vogue actuellement ? Est-ce que toi, tu peux la définir ? Qu'est-ce que pour toi la performativité ?
Je ne le prends pas au sens strictement linguistique qui voudrait qu'on énonce un projet et on le fait en même temps. C'est ça la performativité, normalement. Hein. C'est je dis quelque chose et je le fais. Bon, je ne l'ai pas pris dans ce sens-là, au sens strictement linguistique. C'était aussi une question de trouver un titre qui... Ben, je trouve le titre déjà un peu long pour ce colloque. Donc il fallait un titre qui soit... c'est plus une question de résonance du titre hein, pour ce qui est du mot performative. Hein. Bon. Maintenant, comment je l'entends ? Moi, je me suis beaucoup questionnée sur les liens qu'on peut établir entre la danse au tout début du XXe siècle et la performance telle qu'elle se développe dans les années 50-60. Ce sont normalement des domaines qui sont séparés, c'est-à-dire à ma connaissance, dans les années 10-20, on ne disait pas qu'on faisait des performances, on dansait. Quoique sur ça, il y aurait peut-être encore à vérifier, mais... En tout cas, le mot performance n'était pas en vogue comme il l'a été dans les années 50-60, ça c'est certain. Donc ça m'intéresse comment on passe du vocable danse à celui de performance. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir les points communs et les différences entre les deux. Voilà. Donc attitude performative parce que aussi j'ai ce sentiment que la danse a été pour les femmes dans les années 10-20 et avant aussi, ça a été le moyen d'expression par excellence qui leur permettait de se libérer, qui leur permettait de s'imposer autrement que comme muse d'un artiste ou femme d'un artiste. Je pense là à Sonia Delaunay ou Sophie Tauber-Harp. La danse leur permettait véritablement de s'opposer à l'ordre dominant. Et de révolutionner à leur façon les genres en imposant, je pense à Valeska Gerd particulièrement qui à travers ses différentes pantomimes vraiment pose la question de la féminité hein, à travers par exemple son imitation de la maquerelle ou de la mort ou même du bébé, je trouve qu'il y a vraiment une réflexion très très en avance sur son temps, pour ça d'ailleurs qu'elle a été si peu comprise, vraiment une réflexion sur les genres, sur la mutation des genres. Voilà. Donc c'est pourquoi le mot attitude performative, attitude, ça m'intéressait bien qu'il y soit ce mot-là, parce que je pense que c'est vraiment une question d'attitude. Et quand on lit le livre de Gertz qui s'intitule « Je suis une sorcière », on voit bien à quel point c'est un art d'attitude. Quoi. Elle décrit toujours des situations d'opposition, de tension. Et je pense que pour les femmes qui ont voulu s'imposer au début du siècle, mais aussi au milieu du XXe siècle, ça a été constamment ça. Hein. C'était constamment opposition. Fallait sortir de sa coquille, quoi, en quelque sorte. Hein. Ça demandait une agressivité, je pense, assez forte, qu'on a aussi chez Rebecca Horn, hein, dans les travaux de Rebecca Horn, dans ceux d'Anna Mendieta, dans ceux d'Orlan, même encore maintenant. Enfin, voilà. C'est comme ça que j'entends attitude performative. En fait. C'est la femme qui se libère, sort du carcan, et qui le fait avec une certaine agressivité, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Ceux qui m'ont le plus appris, c'est quand même les autobiographies des danseuses elles-mêmes. C'est par rapport à mon sujet. Hein. Et puis les livres que je citais, les livres d'histoire de l'art que je citais. La réflexion philosophique de Butler, à bien des égards, souvent, elle m'échappe. Je pense qu'il y a un contexte vraiment très américain et que si on n'est pas dedans, on passe à côté de bien des querelles ou des enjeux du livre. Hein. Donc, je le dis en toute modestie. Hein. Moi, je n'ai pas bien compris Butler.
Est-ce qu'il y a des philosophes ou est-ce qu'il y a une filiation philosophique qui pourrait éclairer ton travail?
Moi, j'aime beaucoup le travail philosophique de Jacques Rancière, ça c'est certain. C'est le philosophe que je lis avec le plus d'attention. Voilà, notamment ce qu'il a pu écrire sur Mallarmé, ça m'a beaucoup intéressé, mais aussi bien sûr son travail sur l'image. Voilà, lui et Didier Huberman hein, sont les deux auteurs que j'ai, desquels j'ai le plus appris, je crois, je peux dire, enfin, dans mes lectures récentes liées à la philosophie. Ce serait ces deux-là essentiellement. Mais il y en a d'autres quand même. Hein. Deleuze notamment. Par exemple, Qu'est-ce que la philosophie ? C'est un livre qui m'a beaucoup fait penser aussi.
Est-ce que tu te considères comme une historienne féministe, entre guillemets ?
Je suis loin de là. Hein. Je pense, si on devait récapituler ce que j'ai fait, bon, j'ai quand même publié 4 livres sur Francis Picabien, donc j'aurais quand même beaucoup de mal à me prétendre féministe après ça. Disons que j'ai une sensibilité pour ça qui s'est développée relativement récemment, enfin qui a pris plus de forme récemment. Voilà. C'est vrai que quand on se penche, par exemple, sur le travail des Guerilla Girls, on ne peut nier que la représentation des femmes dans les expositions, notamment françaises, ça... Enfin, moi, j'ai quand même beaucoup d'amis artistes qui sont des femmes sur qui j'ai écrit, qui sont mes collègues en école d'art. Et c'est vrai que depuis qu'on a vu le travail de Guerilla Girls, on ne peut pas s'empêcher de faire des petits quotas. On se dit, tiens, dans cette exposition, combien y a-t-il de femmes ? Et bien souvent, quand même, on est loin de la parité, hein, vraiment, vraiment loin. Hein. Donc, oui, ça finit par bouillir un peu. Hein. C'est ça. Maintenant, je ne suis pas pour autant une féministe engagée. Simplement, j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses. Et oui, je serais prête effectivement à aller plus loin. Et je pense que peut-être ce colloque est un premier pas vers ça. Hein, mais on verra.
On peut quand même dire qu'effectivement, comme tu le dis, depuis 4-5 ans, il y a une espèce de déferlante de ces préoccupations. Et quel est ton point de vue par rapport à ça ?
Moi, je trouve que c'est... Enfin, j'ai eu une phase où je trouvais ça un peu exagéré. Une sorte de ghetto où on plaçait les femmes. Donc, c'est vrai qu'il y a ce risque, c'est certain. Mais d'un autre côté... On ne peut pas continuer avec les postes de décision et de pouvoir monopolisés quand même essentiellement par les hommes. Enfin, je ne veux pas faire tout le monde sait très bien hein, quelle est la situation des femmes en France, que ce soit sur le plan politique. On n'a toujours pas de président de femme, toujours pas de premier ministre femme. Bon, que ce soit sur ce plan-là ou sur le plan même de l'histoire de l'art, hein, qui je vois bien combien c'est difficile pour certaines femmes de voir leur travail reconnu. Hein. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Je pense que c'est quand même nécessaire de pointer ces dysfonctionnements.
Dernière question. Quelle relation tu as au son dans la relation du son et du savoir ? C'est-à-dire, si tu écoutes une conférence et si tu lis le même contenu, quelle est pour toi la différence de réception ?
Là, c'est effectivement des domaines qui sont un peu moins les miens, c'est vrai. Non, en fait, le son m'intéresse beaucoup comme archive, en fait, c'est surtout ça. Donc... Bon, je peux donner des exemples liés à ma recherche antérieure sur Francis Picabia. J'étais ravie d'avoir des enregistrements sonores des entretiens qu'il avait faits dans les années 50 avec Charbonnier pour, à ce moment-là, la radio nationale française. Oui, ça, c'était très intéressant d'entendre la voix d'André Breton, d'entendre celle de Marcel Duchamp. Je trouve ça extrêmement émouvant, extrêmement émouvant. Voilà, c'est là, effectivement, on accède à une autre dimension qui est plus du domaine sensoriel ou presque sensuel. Et c'est très important, je trouve, d'entendre les intonations des voix. Par exemple, celle de Duchamp, on peut être étonné d'une certaine aristocratie, de sa façon de parler, qu'on n'a pas chez Picabia, par exemple, hein, qui... Lui va ponctuer son discours de blagues, de jeux de mots. Voilà, donc cette dimension-là m'intéresse plutôt. Oui, c'est parce que ce sont des fantômes qui renaissent. Et que c'est vraiment par la voix, je trouve que c'est le plus fort. L'image, on en a tellement que c'est uniquement, oui, par le son de la voix qu'on se sent proche des personnes disparues.